Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jérôme Charbonneau.
Bonjour. La révolution technologique de l'audiovisuel, qui est celle du XXe siècle, nous a fait rentrer dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui une véritable civilisation de l'image et du son, à tel point que beaucoup n'hésitent pas à dire que le XXe siècle s'annonce totalitaire en matière d'image et de son. À travers le monde, ce sont environ 500 millions d'heures d'images et de sons qui sont produites par an. Pour la France, on estime que cette quantité s'élève à peu près à environ 3 millions d'heures par an. Et les matériaux audiovisuels sont donc désormais des supports incontournables grâce auxquels nous gardons en mémoire l'histoire de notre temps, à travers lesquels nous posons un regard nouveau sur notre histoire. Or, la fragilité de ces supports et la quantité immense des archives qu'ils nous permettent d'enregistrer posent des problématiques de conservation et de classement. C'est à de telles problématiques que répond le guide du patrimoine sonore et audiovisuel qui vient de paraître aux éditions Belin et qui a été présenté jeudi 7 avril à l'Institut de France. Et nous recevons aujourd'hui dans Éclairage, pour en parler, les deux auteurs de ce guide, Madame Agnès Calu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du patrimoine au ministère de la Culture, et Monsieur Hervé Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du patrimoine, vous, au ministère de la Défense. Alors, peut-être pour commencer, pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste ce guide du patrimoine sonore et audiovisuel français ?
Eh bien, peut-être que nous pourrions considérer qu'il s'agit d'une cartographie raisonnée de l'existant, parce qu'il est certain, me semble-t-il, que l'on ne peut commencer à analyser une matière que dès lors qu'elle est déjà à peu près cartographiée. Donc vous voyez que les ambitions de départ, je pense, étaient assez modestes, même si pour mettre en œuvre, j'allais dire, ces ambitions, il fallait un travail assez considérable en amont. Et donc je dirais, oui, les ambitions de départ, c'est une cartographie. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de cartographie, car l'ancrage territorial pour nous a été quelque chose de tout à fait considérable, dans la mesure où on considère que le patrimoine sonore et audiovisuel français a une filiation avec, véritablement la territorialité, la spécificité culturelle, linguistique, patrimoniale d'une frange territoriale. Donc nous avons essayé de faire une cartographie, et une cartographie qui soit raisonnée et qui recense deux types de matériaux qui, nous semblait-il, doivent se répondre. D'un côté, les archives d'époque, et de l'autre, la narration rétrospective que font les acteurs d'une époque. C'est-à-dire que sur un événement donné, il nous semble qu'il faut rassembler à la fois ce qui est dit, ce qui est montré au moment même des faits, et à la fois ce que l'on en dit 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard.
Précisément, cette cartographie consiste en quoi ? C'est-à-dire, lorsqu'on ouvre finalement le guide du patrimoine, qu'est-ce qu'on va trouver ? Il s'organise en 7 tomes, c'est ça ? Ces 7 tomes, comment sont-ils organisés ? Comment sont-ils présentés ?
Oui, si vous le permettez, effectivement, cette idée de cartographie, on y était très attaché, c'était très important, et c'est une cartographie raisonnée et vivante aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on pense au patrimoine, enfin en tout cas aux sources sonores et audiovisuelles en France, on pense évidemment, naturellement, aux trois grandes institutions que sont l'Institut National de l'Audiovisuel, la Bibliothèque Nationale de France et le CNC, le Centre National de la Cinématographie, comme étant les trois grands centres qui sont chargés du dépôt légal, du son et de l'image, pour faire court. Et donc c'est vrai que on a trop tendance à penser qu'à part ces trois grandes institutions nationales, il n'y a plus rien d'autre. Or nous, justement, notre propos, ça a été de dire, et comme le disait Agnès Calu à l'instant même, en liaison avec cette conviction profonde que nous avions que l'aspect territorial était très important et qu'il y avait partout sur le territoire des institutions, quelle que soit leur nature et leur forme, et on va revenir à cela vous présentant justement l'organisation des tomes qui composent de ce guide. Donc on était absolument persuadés qu'il y avait évidemment énormément de gisements de sons et d'images enregistrées sur des supports aussi divers et baroques peut-être les uns que les autres, mais que pour autant ils étaient constitutifs de ce que nous considérons comme étant là aussi une partie vivante de ce patrimoine sonore et audiovisuel. Et nous sommes partis donc à la recherche en quelque sorte de toutes ces pépites d'images et de sons dispersés sur le territoire et conservés dans des institutions, je vous dis, extrêmement variées. Et donc, effectivement, on a d'abord mené une enquête nationale, de façon à trouver sur l'ensemble du territoire, parmi les bibliothèques, les services d'archives, les musées, les centres de recherche, les associations, les laboratoires du CNRS, que sais-je, toutes sortes donc de structures, de trouver parmi toutes ces structures celles qui étaient susceptibles et celles qui possédaient réellement bien des enregistrements qui étaient l'objet de nos soins, de notre attention.
D'accord. Alors, qui peut utiliser ce guide ? À qui s'adresse ce guide particulièrement ? Et comment on peut utiliser ce guide, en fait ? De façon pratique, on ouvre le guide, on se réfère à un index, on peut savoir ce que chaque centre de ressources propose, avoir son adresse, avoir son site internet. Quelles sont les informations concrètes que l'on trouve, en plus du fait que le guide propose une cartographie, comme vous venez de nous le préciser ?
Bien, Monsieur Lemoine, si vous voulez, effectivement, une fois que nous avons mené cette enquête auprès des quelques 10 000 institutions ou organisations que nous avions pistées comme étant susceptibles de détenir donc des fonds sonores et audiovisuels, nous avons adressé et nous nous sommes adressés à ces 10 000 institutions d'une façon d'ailleurs là aussi très très, comment dirais-je, très fine. C'est un peu prétentieux de le dire, mais c'est vrai que ça a été pour nous une phase importante du travail. C'est-à-dire que comme notre objectif justement n'était pas de faire simplement un annuaire, parce qu'à la limite ça, il y en a des annuaires, des annuaires professionnels sur les sociétés de production d'audiovisuel, etc. Il y a ce genre de choses qui existent. Nous, notre objectif, c'était vraiment qu'au travers, la restitution de notre travail permettrait à des chercheurs ou à tout curieux de la chose sonore audiovisuelle de mieux connaître la nature, la physionomie des fonds conservés par ces institutions, si vous voulez. Donc, ces 10 000 institutions que nous avions d'abord senties ou pressenties comme étant susceptibles de détenir des sources sonores audiovisuelles, nous nous sommes adressés à elles. Quasiment, pas exactement, on n'a pas exactement fait 10 000, je dirais, 10 000 approches différenciées, mais on a fait quand même, on a essayé chaque fois de solliciter chacune de ces institutions, donc qu'il s'agisse d'un musée, par exemple, ou d'une association professionnelle, ou par exemple d'un comité pour l'histoire, d'une grande entreprise, parce que là, il y a beaucoup de films d'entreprise, par exemple, qui sont très intéressants pour le domaine audiovisuel. Eh bien, nous avons essayé d'approcher chacune de ces structures d'une façon, si vous voulez, extrêmement fine, extrêmement proche de ce qui nous semblait être éventuellement leurs préoccupations, de façon une nouvelle fois à ce que si elles étaient réellement détentrices donc de sources sonores et d'audiovisuels, eh bien qu'elles puissent bien nous restituer la nature et la physionomie de ce qu'elles conservaient.
Oui, Madame Cali. Juste là, vous nous demandiez donc à qui était destiné ce livre. C'est vrai que notre ambition est que ce livre soit utilisé vraiment par tous les chercheurs en sciences sociales et que cela devienne un usuel. Je crois qu'on se reconnaît assez bien derrière cette notion d'usuel. En tout cas, moi, je ne la trouve pas dévalorisante. L'idée est que véritablement, ce soit un patrimoine qui devienne accessible naturellement, culturellement à tous. Dans la mesure où les chercheurs en sciences sociales décident de travailler sur une thématique, sur un événementiel qui est du temps présent, il faudra solliciter les ressources du temps présent. Donc à la fois, j'allais dire, les ressources live qui se passent au moment même des faits et à la fois le discours de ceux qui peuvent encore témoigner de comment c'était. Donc notre ambition, c'est cela, c'est que quiconque travaillant, et c'est pour ça que l'ambition est large, mais après tout, pourquoi pas, quiconque travaillant sur l'histoire du XXe siècle ait en quelque sorte le réflexe de se dire, très bien, mon état des sources sera composé de sources écrites, mon état des sources utilisera également de l'iconographie, du matériel de propagande, mon état des sources utilisera également la diversité du matériau audiovisuel, parce que, par définition, il a une spécificité, il dit, il montre, et par lui, on entend autre chose. Donc, l'ambition était véritablement celle-là, et que ce soit un usuel, eh bien, oui, qu'il soit dans toute bibliothèque, et que, voilà, ça soit un réflexe créé. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on est encore une exception culturelle française, ce qui fait que ce matériau audiovisuel, me semble-t-il, reste très marginalisé par rapport à ce qu'il devrait être. On a encore de très nombreuses soutenances de thèse où on considère qu'un tel ou un tel ayant utilisé ce type de matériaux, ou bien c'est formidable et c'est un génie parce qu'il l'a fait, ou bien c'est épouvantable parce qu'il l'a fait. Nous souhaiterions que ce ne soit ni épouvantable ni génial, mais normal.
D'accord.
Et donc les ambitions de cet usuel sont là, la normalité.
Alors vous parlez d'usuel, votre travail, qui est un travail colossal, a même été comparé au travail de Diderot et d'Alembert en leur temps. C'est M. Cluzel, l'un de vos deux éminents préfaciers, qui disait cela dans la présentation qui a été faite du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français. Alors, ouvrage colossal, je disais, je suppose que vous n'avez pas été les deux seuls meneurs, ou en tout cas, si vous avez été les meneurs, vous avez dû être assisté par toute une équipe de personnes dans ce travail.
Eh bien, à la différence de Diderot et d'Alembert, et c'est vrai que la comparaison nous a évidemment flattés, comme vous l'imaginez bien, mais à la différence de Diderot et d'Alembert, nous avons été vraiment deux, nous.
Oui. Nous sommes une équipe à deux.
Non, nous étions une équipe à deux, effectivement, et c'est vrai que ce projet, bon, cela étant, ce projet, c'est l'aboutissement de 6 années de travail, en dehors même de l'accomplissement de nos missions et de nos fonctions dans nos institutions respectives, car évidemment, nous n'avons pas abandonné toutes nos responsabilités par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un travail qu'on a imaginé, conçu, mené et rédigé à deux. Mmh. Voilà.
Ce qui est assez satisfaisant, juste une chose là-dessus, c'est de dire effectivement, là, comme vient de le rappeler Hervé Lemoine, c'est qu'il y a la satisfaction peut-être de l'intégralité de la chaîne. C'est-à-dire que, j'allais dire, je me revois effectivement il y a 6 ans discutant dans un bureau, et si nous faisions cela, et là nous nous retrouvons dans un autre bureau aujourd'hui pour dire on l'a fait, et effectivement tout est dedans, c'est-à-dire aussi bien la logistique que l'ingénierie d'un projet, que c'est côté plus pratique, plus aride, que des exercices de rédaction, de sélection, de réflexion commune. Et puis cet exercice assez particulier qui est celui d'une écriture à 4 mains, d'une très bonne connexion à 2. C'est un exercice aussi particulier, hein, je crois, que d'être à 2 de façon partagée sur un projet. Je crois que ça a été très stimulant. On avançait main dans la main là-dessus en se disant « Que penses-tu de ça ? Je pense cela. Échangeons, avançons. Et si on faisait cela ?» Je crois que c'est, d'un point de vue intellectuel, très, très stimulant, et très stimulant de mener les choses aussi d'un bout à l'autre.
Alors,
c'est rare, peut-être.
Sur cette logistique, sur cette ingénierie du projet, nous reviendrons après une courte pause. Vous écoutez Éclairage et nous parlons aujourd'hui du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français en présence de ses deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine.
Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jérôme Charbonneau.
Vous écoutez Éclairage, nous parlons aujourd'hui du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français en compagnie de ses deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine. Alors, nous étions restés à la question de l'ingénierie de projet, de la logistique qu'il vous a fallu mettre en place, et on découvre avec stupéfaction que vous êtes les deux seuls à avoir travaillé sur ces projets sans autre assistance, et vous êtes l'image à vous deux d'une collaboration entre deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de la Défense. Alors, on pourrait s'étonner de voir figurer le ministère de la Défense dans une telle entreprise, et pourtant, il y a tout à fait sa place.
Monsieur Lemoine. Oui, ça lui est apparu et ça nous est apparu comme étant très naturel, puisque de toute manière, si l'on veut reprendre tout à fait la genèse de ce projet, c'est que Agnès Calu, donc pour les Archives nationales, s'occupait notamment et a toujours en charge la responsabilité du département d'histoire orale, donc chargé de recueillir les témoignages, notamment souvent d'hommes politiques. Enfin, c'est souvent ce domaine-là qui est celui privilégié par ce département. Et moi-même, au sein de mon propre ministère, j'avais en charge le même département, en quelque sorte, moi m'intéressant plus forcément plutôt aux grands acteurs militaires, mais forcément de la sphère, je dirais, militaro-politique. Et nous avons donc, il y a un peu plus de 6 ans, c'était avant justement de commencer à travailler ensemble pour ce projet, nous avons décidé de travailler sur un programme d'enquête commun qui concernait les anciens hauts responsables politiques et militaires du secrétariat général de la Défense nationale pendant la guerre d'Algérie. Donc si vous voulez, très naturellement, eh bien, nous avons fait ce travail de terrain, donc d'enquête de terrain, en rencontrant des témoins. Une nouvelle fois, on a rencontré des diplomates, des politiques, des militaires. Et puis, c'est en faisant ce travail de terrain que nous nous sommes interrogés sur ce qui avait pu se faire autrement et ailleurs. Et l'idée, je dirais, à ce moment-là, de ce guide, est née de cela. Donc, il est né d'abord, eh bien, je dirais, d'un souci très pragmatique de connaître et de savoir ce qui se faisait ailleurs. Et comme cela, nous nous sommes petit à petit, si vous voulez, dirigés vers ce projet où nous avons été soutenus, même si nous avons été deux à le faire, à l'écrire et à le concevoir. Nous avons été, il faut le dire quand même aussi, soutenus dans nos efforts, et ça nous a beaucoup stimulés et encouragés, parce que 6 années de travail comme ça, vous imaginez bien, comme toujours, que parfois il y a des moments aussi de découragement, parce que c'est quand même lourd à porter. Nous avons été très encouragés par l'Institut des Archives Sonores et par notamment ses deux principaux directeurs, Franklin Picard et Daniel Vallon, qui sont à la tête en fait sans doute de la plus grande collection européenne et peut-être même mondiale d'enregistrements sonores et notamment de voix, d'enregistrements parlés, qui sont donc des collectionneurs fous et géniaux, comme souvent le sont les collectionneurs, et fous parce que c'est quand même une entreprise folle de réunir plusieurs centaines de milliers de documents de cette nature. Et donc, on les avait rencontrés dès le départ de notre entreprise, et ils nous ont toujours soutenus dans ce projet. Donc là, il faut aussi leur rendre un coup de chapeau, parce que voilà, ils nous ont beaucoup aidés. Donc maintenant, pour répondre aussi précisément à votre question, donc non seulement au ministère de la Défense, il y avait déjà, donc, je dirais, au travers de l'activité des services historiques, qui sont très anciens et qui existent depuis près de 300 ans, en quelque sorte, au ministère de la Défense. Donc, non seulement il y a un goût prononcé pour l'histoire et la recherche en histoire, et donc ce goût s'est traduit depuis maintenant plusieurs décennies par la création d'un département chargé de recueillir des témoignages oraux. Et donc, vous comprenez bien maintenant quelle est la filiation qui nous a mené tout naturellement à travailler ensemble avec les Archives nationales et notamment avec le département dont s'occupe Agnès Calu pour les recueil de témoignages oraux.
Madame Calu.
La signification de notre travail commun à Hervé Lemoine et à moi, il vient de vous le rappeler, donc un programme de recherche commun au départ, donc la défense, les services historiques de la défense et les archives de France étaient une chose qui était acquise. Maintenant, ce partenariat était tout à fait, nous semblait-il, peut-être insuffisant et n'ouvrait pas suffisamment l'horizon. C'est pour cette raison donc, que sont entrés deux autres partenaires dans ce projet. Hervé Lemoine a rappelé, et c'est tout à fait fondamental, donc le rôle de l'Institut des archives sonores parce que c'est un institut qui est ouvert et qui est ouvert notamment sur la sphère privée, ce qui était une chose à laquelle on tenait beaucoup. Et l'autre partenaire, dépendant aussi du ministère de la Défense et qui était pour nous tout à fait essentiel, était l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, établissement détenteur d'un patrimoine absolument extraordinaire dans le domaine de l'audiovisuel, établissement bénéficiant donc de compétences tout à fait particulières dans la valorisation du dit patrimoine. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agissait de la mise en place d'un partenariat, je l'espère, intelligent, qui faisait sens et qui nous permettait ensuite de nous tourner vers tous les autres. Et nous tourner vers tous les autres, c'était bien sûr interroger, solliciter le dépôt légal, sachant tout de même que le dépôt légal dans le domaine de l'audiovisuel ne remonte jamais qu'aux années 1992-1995, donc c'est une affaire récente. Donc on aurait pu dire, après tout, signalons la Bibliothèque nationale, signalons l'INA, signalons le CNC, point à la ligne. Nous avons voulu dire, ces trois institutions-là sont rectrices, fondamentale, avec des fonds absolument colossaux, mais essayant de pister l'autre. Et l'autre, c'est justement la nébuleuse associative, la nébuleuse des anonymes, c'est-à-dire aussi bien les toutes petites communes que les écomusées, les petits musées associatifs, les associations d'anciens combattants, les associations qui préservent des savoir-faire cultuels, de pratiques quotidiennes. Donc c'était vraiment, je le crois, une entreprise aussi démocratique, nationale, hors des institutions déjà balisées, que l'on connaît bien, aller voir ailleurs, véritablement. Cette notion d'enquête nationale, je crois qu'on se ressent beaucoup là-dedans. Mmh. C'est pour cette raison que l'affaire, je pense, fut aussi longue et lourde. C'est parce que, justement, c'était un balisage, véritablement, de la France entière. Donc, 5 années, 5 relances, 50 000 courriers. Je m'excuse de faire un instant du quantitatif. Mais derrière ce quantitatif, il y a peut-être, effectivement, la signification du travail mené. Mais derrière le travail mené, ce que nous voulions faire. Et ce que nous voulions faire, c'était, effectivement, aller débusquer ce que l'on ne connaît pas. Et débusquer aussi bien le témoignage d'un centenaire dans un petit village de 100 personnes, pour nous, oui, il est intéressant. Et aussi intéressant à porter sur la place publique, et en l'occurrence aussi intéressant à être porté à la connaissance des chercheurs que d'autres ressources plus connues, mises sous les feux de la rampe.
Alors en feuilletant le guide, j'ai trouvé par exemple des choses tout à fait étonnantes et fort sympathiques, comme la maison de la chicorée qu'on peut trouver à Orchy dans le Nord, qui propose des films documentaires, des interviews, notamment des interviews d'Alain et Robert Leroux, qui sont les industriels fabricants de la chicorée. C'est aussi, par exemple, l'écomusée Les Lavandières, qu'on trouve en Lorraine, où on peut trouver des enregistrements, des souvenirs des personnes âgées du village. Et puis, il y en a bien d'autres.
Ces exemples-là, ils pistent véritablement, je crois qu'ils éclairent bien ce que nous venons de dire, c'est-à-dire tout le reste. Et toute cette prise de parole, quelquefois prise de façon un tout petit peu empirique, oui, bien sûr, même très certainement, mais j'allais dire pourquoi pas, la prise de parole est là, justement, elle a été patrimonialisée à un temps T par une association, une structure, une organisation, donc elle est patrimonialisée, donc elle est utilisable par les historiens, donc nous l'avons recensée.
Et il n'y a pas que Monsieur la parole, il y a la parole associée à l'image aussi, et vous auriez pu citer ou trouver d'autres exemples effectivement qui correspondent forcément à
l'image. Ils sont nombreux.
On espère, à l'image et au son, pour n'en citer que deux qui me viennent à l'esprit, des films par exemple des premières colonies de vacances tournées à Suresnes dans les années 1920, ou bien alors encore des films plus engagés tournés par Greenpeace dans les années 70, dans les communes auprès desquelles on allait installer les premières centrales atomiques. On voit très bien que tout ça, ce sont des éléments qui sont effectivement extrêmement intéressants, si l'on veut comprendre toutes les mutations, aussi diverses soient-elles, qui sont intervenues dans notre société, dans le siècle qui s'est écoulé.
Alors on se représente alors le caractère immense, gigantesque, pléthorique de votre travail et des sources auxquelles vous avez pu avoir affaire. Pour revenir au propos de Madame de Boisdeffre, est-ce qu'on peut considérer que toute empreinte peut être prise comme patrimoine, peut être intégrée au patrimoine?
Écoutez, effectivement, tout n'est pas forcément patrimoine, mais dans le titre de notre ouvrage, effectivement, un patrimoine pour les... nous, on affirme justement l'aspect patrimonial des sources sonores et audiovisuelles d'une façon un peu revendiquée, qui paraît une évidence un peu aujourd'hui, où on a l'impression que tout peut être susceptible d'être patrimoine, c'est vrai. Alors que il faut rappeler que nous avons commencé à travailler en fait en 1998-1999, ce n'est guère que 3-4 ans après les dernières lois du dépôt légal en France de l'audiovisuel. Donc vous voyez que là, on était quand même encore assez loin de l'aspect de la reconnaissance formelle du matériau sonore audiovisuel comme étant effectivement une source patrimoniale et susceptible d'être patrimonialisée, si je peux me permettre ce néologisme. Effectivement, nous avons pris le parti de dire que, certes, tout ne sera pas patrimoine, mais tout sera trace en tout cas. Tout sera trace et tout est trace dans le domaine sonore et du visuel. Après ça, c'est évidemment le regard que nous porterons ou que les chercheurs ou que toute personne est susceptible de porter aussi sur ces sources qui va les intégrer après ça à un discours, à une narration historienne ou à une recherche menée par un sociologue, un politologue, un ethnologue, etc. La revendication, notre point de départ, ça a été aussi de dire, en tout état de cause, que alors que le sonore et l'audiovisuel étaient entachés, en tout état de cause, d'un soupçon de non-patrimonialité, en tout état de cause, on était bien persuadé trop longtemps que ça, effectivement, c'était exclu de la sphère du patrimoine, en quelque sorte, qui restait en France essentiellement réservé au domaine du bâti et de l'écrit, pour faire court. Nous, on a voulu prendre le parti de dire qu'en tout état de cause, non, il était constitutif du patrimoine au même titre que le bâti et que l'écrit.
Alors, sur les critères que vous avez pu retenir pour constituer votre guide et sélectionner les différentes ressources qui y figurent, nous y reviendrons après une courte pause. Vous écoutez Éclairage et nous parlons aujourd'hui du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français en présence de ces deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine.
Canal Académie.
On retrouve Jérôme Charbonneau.
Vous écoutez Éclairage, nous parlons aujourd'hui du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français en présence de ces deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine. Alors, vous nous expliquiez, Monsieur Lemoine, tout à l'heure, votre volonté de patrimonialiser, pour reprendre votre propre terme, les sources audiovisuelles et sonores. Alors, je reprends vos propres termes dans le premier volume du guide où vous dites le patrimoine reste fondé sur deux concepts dont la conjonction fait la force, la pérennité sublimée par l'excellence. De fait, le patrimoine est ce qui reste aujourd'hui d'hier, ce qui a surmonté les épreuves du temps pour être transmis à la postérité. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire à considérer que les sources audiovisuelles et sonores, dans le caractère éphémère qui est le leur, puissent constituer des sources du patrimoine ?
Je crois qu'il Madame Calu. Justement, et Hervé Lemoine vient de le dire, premièrement, il fallait accepter d'être volontaire et de parier sur ce type de patrimoine et de dépasser effectivement ce que certains considèrent comme un empêchement d'irriment de départ, à savoir que l'audiovisuel est volatile, qu'on est dans le domaine du consommable et que par conséquent, ce n'est pas du patrimoine. Nous disons l'audiovisuel effectivement est environnemental. Il y en a partout, on allume la télé, on allume la radio, mais on est dans du patrimoine virtuel. Et nous avons accepté de dire ce patrimoine virtuel est de toute façon du patrimoine. La difficulté et sa spécificité font sa force. Et effectivement, même si c'est un tout petit peu séquent par rapport à la définition académique, classique, que l'on donne au patrimoine, je crois qu'on la retrouve bien de toute façon sur ce type de matériau, qui est un matériau effectivement particulier, éphémère et en même temps dont on sent qu'il appartient à cette grande famille du patrimoine, quelle que soit d'ailleurs ses difficultés de conservation. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas parce que c'est difficile à conserver qu'on ne doit pas considérer que c'est du patrimoine. Vous comprenez bien que ce serait une façon d'attraper les choses vraiment au rabais, si je puis dire, où on pourrait dire voilà, c'est tellement épouvantable, eh bien ne faisons rien. Eh bien, moi, je n'ai pas envie de dire c'est tellement épouvantable, j'ai envie de dire c'est tellement formidable. Et on a une telle chance, justement, d'avoir ces types de sources si faciles et si proches de nous qu'on a l'impression qu'elles sont en même temps inaccessibles. Mais non, elles sont proches, elles sont là. Eh bien, mobilisons les efforts, les forces et les différents questionnements pour les utiliser et pour les patrimonialiser. Surmontons les difficultés techniques, surmontons les difficultés juridiques. Après tout, les difficultés juridiques et techniques ne sont pas plus difficiles sur ce type de matériaux que sur d'autres types de matériaux. Et justement, concentrons-nous sur le contenu. Et je crois que ça, c'était quand même vraiment notre volonté de départ. Enlever, j'allais dire, toute cette espèce de crainte, de diabolisation de ce type de source en disant « Bon, très bien, c'est délicat, soit. » Maintenant, réfléchissons à ce qu'elles peuvent nous apporter. Ce qu'elles peuvent nous apporter, c'est absolument considérable. Et c'est cela qui nous a intéressés. C'est à la fois la représentation de l'histoire et c'est surtout vraiment insérer le témoin au cœur du dispositif historique. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est de dire, parfait, l'histoire des structures, c'est intéressant, mais l'histoire des structures sans les hommes, ce n'est rien. L'histoire d'un événement, c'est intéressant, mais l'histoire de la représentation de l'événement, c'est fondamental.
Malgré cela, il y a des choses. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes passé de 10 000 structures qui ont répondu à votre enquête à quelques 900 structures, c'est ça qui apparaissent dans le guide. Il a bien fallu opérer une sélection, je suppose. Alors, quels sont les critères que vous avez retenus ?
Si vous le permettez, juste, je voudrais rebondir d'une phrase par rapport à ce que vient de dire Agnès Calu, parce qu'effectivement, cette notion de patrimoine, enfin est-ce ou pas du patrimoine, c'est une vraie question. C'est vrai que les deux aspects, pérennité et excellence, comme vous venez de le dire, c'est vrai que c'est un aspect qu'on a développé dans notre tome 1. Et finalement, la réflexion, c'est vrai, ce qu'on s'était beaucoup dit, c'est que souvent, la question et le fait de focaliser son attention sur la difficulté de conserver, de la conservation de ces sources, avait oblitéré complètement l'intérêt de ces sources. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'on réservait, si j'ose dire, un sort particulier au domaine audiovisuel et sonore, et notamment tout ce qui était produit par la télévision et la radio, par exemple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui du cinéma. Car qui aujourd'hui, alors que la conservation des films cinématographiques sont de même nature que les problèmes posés par la conservation des archives de la télévision ou de la radio, mais aujourd'hui, qui va dénier le caractère de patrimonial et d'œuvre d'un film de Jean Renoir ou d'Eisenstein ou de qui d'autre ? Personne. Donc, si vous voulez, on pense aussi très nettement que c'est le fait qu'il y ait une telle profusion, comme disait Agnès Calu tout à l'heure, qu'on soit immergé dans ce tout audiovisuel, qui est à la fois une dimension à la fois naturelle de notre environnement, mais dont on ne prend pas conscience que cette dimension naturelle, si on n'y prend pas garde, eh bien elle va s'évanouir et on n'arrivera plus effectivement, donc, pour le futur, à garder et à transmettre et à montrer ce qu'a été une partie pourtant d'un environnement et d'une forme de quotidienneté de l'individu, de l'homo sapiens sapiens au XXe siècle. Et notre propos et notre souci, entre guillemets, nous ne sommes pas le seul à le partager, hein, mais c'était vraiment de dire ça, de dire attention, nous sommes dans une société du son et de l'image, c'est une banalité de le dire, oui, très bien, mais en tout état de cause, si au 23e siècle ou au 22e siècle, les futurs chercheurs sociologues, anthropologues, politologues et autres, eh bien, n'ont de nous comme trace qu'une partie de ce qu'a été notre environnement et notre production naturelle, en gommant tout l'aspect sonore et audiovisuel avec les archives de la radio, de la télévision, ou tout ce qui tient aux travaux que nous faisons en enregistrant nos témoins, etc., eh bien, je crois qu'effectivement, il manquera des sources essentielles à la compréhension de notre temps. Et ça, je crois que c'était vraiment quelque chose d'important.
Oui, je crois que, effectivement, le terme qu'on doit utiliser, c'est le caractère a priori antithétique entre la notion de flux quotidien, effectivement, cette espèce de bain audiovisuel. Est-ce qu'un bain peut être patrimonial ? Eh bien, nous disons, c'est un bain qui, virtuellement, est patrimonial. Avec, bien évidemment, des sélections, mais l'historien fait toujours œuvre de sélection.
Alors justement, quels sont les critères que vous avez retenus pour cette sélection de ce bain, entre guillemets ?
De ce bain, eh bien, ce bain, effectivement, nous avons eu donc des réponses, tout azimut, pas toujours les réponses d'ailleurs des gens que nous souhaitions avoir, c'est-à-dire que certains on les a sollicités, ils ne répondaient pas, beaucoup nous ont répondu et certains effectivement ne se trouvaient, j'allais dire, que dans le bain. Et si ce n'était que du bain, eh bien, cela ne nous intéressait pas. Nous avons sélectionné les choses selon la dialectique fondamentale dont on a parlé tout à l'heure, des archives et des témoignages, j'allais dire une bonne institution, et c'est un peu réducteur de dire cela. Pour nous, une institution exemplaire était une institution qui réussissait, j'allais dire, le bon va-et-vient entre à la fois la conservation d'archives d'époque et à la fois des programmes d'entretien, donc rétrospectifs, sachant que, bien évidemment, l'un et l'autre nous intéressaient. Donc, bien évidemment, chacune des quelques 2000 à peu près reçues in fine, chacune des 2000 notices reçues in fine a été examinée par nous et nous avons, j'allais dire, essayé de faire une première exploitation historique sur ce matériau qui nous était renvoyé. Avions-nous le sentiment que, oui ou non, cela pouvait être une plus-value historique. Bien évidemment, on était dans la subjectivité, mais j'allais dire cette subjectivité, on l'assume. Ce qu'on a essayé, je crois, de faire, c'est de se dire ouvrons. Ouvrons au maximum le spectre le plus large possible. Je vais donner donc un exemple que je trouve assez éclairant, c'est-à-dire que par exemple, certaines archives communales nous ont dit « Ah, vous savez, nous on a pu filmer à un tenté à la fin des années 60, par exemple, grâce au service communication de notre mairie, eh bien, la première ZAC ou la première ZUP qui a été installée près de chez nous. Vous savez, c'est pas formidable, c'est un film qui est assez moche, et puis bon, ça ne retrace jamais qu'un élément à un temps T de notre commune. Eh bien, ça, nous avons dit, oui, bien sûr, c'est intéressant, ce sera fondamental pour l'appréhension de l'histoire urbaine, ce sera fondamental pour l'appréhension des grands ensembles, des développements de la cité, etc., etc. Donc, bien évidemment, j'allais dire, chaque notice a fait l'objet par nous de ce que je viens de dire là en direct. Est-ce que ce que l'on nous formule a à la fois un caractère et un critère d'originalité et de novation par rapport aux matériaux historiques déjà connus et appréhendés par les historiens? C'est d'ailleurs, je crois, la valeur de cette enquête. C'était une enquête interactive. C'était pour ça qu'elle était passionnante et c'est pour ça qu'elle a débouché sur un livre. Hein, ce n'était pas une enquête, j'allais dire, unilatérale. On n'a pas balancé des questionnaires et récolté les matériaux délivrés par un questionnaire. On a préparé un questionnaire, 47, puisqu'on donne des chiffres, 47 questionnaires particuliers, précis, quasiment du prêt-à-porter pour les différents types d'institutions. Et ensuite, chaque réponse, eh bien, nous avons essayé de décortiquer chacune de ces réponses et de voir là-dedans où était le neuf, où était la plus-value, où était, je le répète, la novation.
D'accord. Et la plus-value par rapport à quoi? Quelle est la norme, en fait?
C'est toujours subjectif.
C'est toujours subjectif,
oui,
hein, monsieur Lemoine.
Bah, ça sera là, je veux dire, il y a une variété de sujets de recherche possibles. Donc là, tous les champs de la recherche sont susceptibles, en tout cas, d'être enrichis par les sources sonores et audiovisuelles, si vous voulez. Nous, l'idée, c'était de se dire, d'une façon subjective que nous sommes obligés de revendiquer, parce qu'elle est le fait de toute recherche, mais c'était de dire, quel que soit justement le domaine de la recherche, c'est bien pour ça que c'est un guide qui s'adresse d'abord, je dirais, à toutes les sciences humaines, à toutes les sciences sociales, et enfin à tous ceux qui s'intéressent aux sciences sociales et aux sciences humaines, donc tous les sujets sont susceptibles, évidemment, d'être couverts par des sources sonores et audiovisuelles. Plus rien n'échappe aujourd'hui au domaine sonore et audiovisuel, donc plus rien ne pourra être abordé, étudié sans les sources sonores et audiovisuelles. Donc la seule, voilà, le seul souci que nous avions, nous, c'est de voir et de montrer que quel que soit le type d'interrogation que l'on pouvait avoir sur notre société, et quel que soit, je dirais, le statut de la personne qui était susceptible de porter cette interrogation, les sources sonores et audiovisuelles étaient susceptibles pour leur part d'apporter un complément de réponse. Pas seul, évidemment, hein. Le point de départ de toute recherche, c'est la confrontation des sources, on le sait bien. Eh bien, il y aura des sources de toute nature, et celles-ci, eh bien, en font évidemment partie.
Et elles ne vaudront, pardon, excusez-moi, de toute nature, et de toute façon, comme pour tout autre type de ressources, elles ne vaudront que par le questionnement historique qui en sera fait. Hein? C'est-à-dire que nous avons dit, nous mettons sur la table l'existant. Et je crois que c'était important de dire, il faut proposer un bilan de l'existant. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'un bilan est proposé, il faut toujours expliquer pourquoi on décide de ne pas considérer ce bilan. Moi, je crois que c'était quand même très intéressant de dire, voilà la cartographie au début de l'année 2005, entre ombre et lumière, tout n'est pas forcément, j'allais dire, immédiatement intéressant, tout n'est pas équidistant, il y a des choses extraordinairement diverses, soit, c'est un bilan. Ensuite, chacun, justement, fera son exercice critique sur ces sources-là et viendra les mettre en appui des autres. Hein, là, je ne peux que, bien évidemment, rejoindre Hervé Lemoine lorsqu'il le dit. Oui, bien sûr, confrontation des ressources. Hein, nous n'avons pas été dogmatiques, nous ne sommes pas des talibans de l'audiovisuel. Nous ne disons pas l'audiovisuel, c'est mieux que l'écrit. Nous disons l'audiovisuel avec l'écrit. Avec l'écrit et avec les autres, à côté des autres. Or, aujourd'hui, c'était à côté des autres et trop souvent loin des autres.
Et chaque utilisateur du guide viendra y appliquer sa propre subjectivité,
chacun,
si je puis dire.
Chacun viendra chercher. Et c'est pour cette raison, là, un peu la boucle est bouclée. On parlait tout à l'heure de l'usuel. Un usuel, il est là pour ça. Un usuel, il doit être partout, dans chaque bibliothèque. Et sur chaque sujet, notre idée, je le répète, elle est ambitieuse, serait de dire, parfait, je travaille sur l'histoire du XXe siècle, sur quelconque sujet, je vais regarder ce qu'il y a. Et je pense de façon naturelle et culturelle à aller regarder ce que l'audiovisuel, avec sa spécificité, avec son exception, peut m'apporter. Je juge. Je juge, je confronte, je critique, je prends, je ne prends pas. Mais c'est là.
Alors au cours de ces 6 années de travail, toutes ces sélections que vous avez opérées, forcément empreintes de subjectivité, y a-t-il dans cette pléthore de ressources audiovisuelles et sonores auxquelles vous avez pu avoir affaire, y a-t-il des perles, des trésors encore cachés que vous avez découverts, des choses qui vous ont particulièrement séduites?
Vous savez,
Monsieur Lemoine,
paradoxalement, on aurait tendance à vous dire, les vraies perles cachées, eh ben, elles sont encore cachées, elles demeurent cachées. Et notre certitude, c'est que même si nous avons fait un travail pourtant important, effectivement très très important auprès d'un très grand nombre d'institutions et de centres et d'organisations diverses, néanmoins, beaucoup nous ont échappé. On ne peut pas faire quelque chose d'exhaustif sur cette matière. Elle est tellement protéiforme, elle est tellement diverse, elle nous échappe tellement par ailleurs que forcément il y a encore des trésors qui dorment. Et une des ambitions qu'on avait aussi dans ce projet, c'était de proposer à un moment donné, à un moment T, donc aujourd'hui, de proposer effectivement donc cette cartographie une nouvelle fois nationale et vivante d'un patrimoine, de ce que nous considérons comme étant un patrimoine important pour mieux appréhender notre temps sous tous ses aspects. Mais nous sommes intimement persuadés que beaucoup reste à faire. Alors évidemment, on pourrait vous citer quand même des tas d'exemples de choses tout à fait passionnantes. On parlait tout à l'heure des colonies de vacances de Suresnes en 1920, c'est forcément tout à fait formidable, mais il y a des tas de choses. Dans les collections de nos amis donc, et partenaires de l'Institut des Archives Sonores, eh bien, il y a des enregistrements fabuleux de Bernanos. Le 7 avril, ils en ont d'ailleurs diffusé un extrait. Il y a des enregistrements en français de Tolstoï. Il y a le premier enregistrement d'ailleurs d'un Français, le premier Français à avoir été enregistré dont la voix est aujourd'hui encore conservée, c'est Plomplon, le prince Jérôme Napoléon, en fait. Eh bien ça, ce sont des trésors fabuleux. Il faudrait aussi parler de, Agnès Calu l'a fait tout à l'heure, d'un autre de nos soutiens actifs, le CPAD. Eh bien le CPAD a des trésors extraordinaires, notamment toute une série de films extrêmement émouvants, tournés dans les années 1918-1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, où l'on voit tous ces jeunes paysans, qui étaient donc le gros des corps de troupes des tranchées de Verdun, et bien tous ces jeunes paysans qui ont été hélas mutilés par les bombes et à qui l'on greffe des espèces de prothèses qui ont des formes de faux, de herses, parce que c'est de façon à leur permettre de continuer à travailler dans les champs, eh bien tout ça c'est filmé, eh bien c'est extrêmement émouvant et là aussi ça donne quand même une perception à la fois humaine et puis même une vraie information sur ce qu'a été effectivement une des dimensions tragiques de l'histoire des guerres et des conflits.
Alors si vous le voulez bien, après une pause, nous reviendrons sur le caractère français de ce guide du patrimoine sonore et audiovisuel français dont nous parlons aujourd'hui dans Éclairage avec ses deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine.
Canal Académie.
Vous écoutez Éclairage, nous parlons aujourd'hui du guide du patrimoine audiovisuel et sonore français avec ses deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine. Alors, dans le titre de ce guide, il y a le mot français. Quel est le caractère français du guide du patrimoine sonore et audiovisuel? Est-ce qu'il y a une spécificité française et culturelle des sources que vous avez sélectionnées?
Je crois que, et c'est pour cette raison que nous lui avions demandé, Emmanuel Leroy-Ladurie répond assez bien à votre question donc dans sa préface, parce qu'il a fait un lien, une sorte de triangulation très intéressante entre les rapports entre territoire, langue et patrimoine. Effectivement, ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce travail, c'était effectivement d'assurer toujours la connexion entre la production sonore et audiovisuelle telle qu'elle se présente aujourd'hui à nous et surtout telle qu'elle représente, je le disais tout à l'heure, une portion de territoire. Les filiations, par exemple Languedoc, Langueuil, sont extraordinairement fortes et saisissantes pour donc l'appréhension de ce type de patrimoine. Donc une exception française très certainement dans une prise de parole qui est assez récente, dans certaines sensibilité tout à fait particulière dans un certain nombre de grandes de grandes tendances qui apparaissent autour de certains groupes sociaux, autour de certaines spécificités culturelles liées à un territoire. Il y a une exception française, j'allais dire, il y a une exception française en positif et aussi une exception française en négatif qui fait que dans le domaine de l'histoire orale, de l'oral history, on est malheureusement très en deçà de ce qui se fait du côté de chez nos camarades anglo-saxons qui ont une appréhension de ce type de patrimoine beaucoup plus culturel, beaucoup plus naturel aussi, qui fait qu'il existe un département d'histoire orale dans chaque faculté américaine. Que pour les chercheurs, travailler sur ce type de matériaux est une affaire qui se fait de façon, là encore, aussi très naturelle. Mmh. Chez nous, nous sommes très... un pays de tradition latine, il n'y a pas à tournicoter autour de cela. Et je pense que c'est cela qui explique l'exception française, qui est aussi d'être une exception française, je le répète, un peu négative. Beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très marginalisées, très minorées, en raison de cette conception latine du patrimoine, en raison également donc, de cet attachement à l'écriture, l'écriture vérité, l'écriture qui, elle seule, dit le vrai. Et la parole et l'audiovisuel étant objet de tous les fantasmes et de toutes les manipulations, perversions possibles.
Alors vous reprenez à ce propos l'adage latin « verba volant scripta manent », donc les paroles s'envolent, les écrits restent, et vous dites « la puissance de l'axiome est culturelle tant la France, dans l'appréhension de son patrimoine, est latine et attachée à la transmission écrite ».
Tout à fait.
Monsieur Lemoine.
Oui, et il faut ajouter à cela que bon, c'est une constatation que l'on ne peut que faire concernant les témoignages, notamment l'aspect sonore ou la voix enregistrée. Mais ce qui est aussi un peu dommage, c'est de voir que la France a été quand même un des pays très pionniers pour tout ce qui est du domaine du cinéma. Et l'audiovisuel, par ailleurs. C'est ça qui est quand même un petit peu paradoxal et dommage. Bah, les frères Lumière, quand même, ils sont ce qu'ils sont. On peut pas leur dénier cet aspect pionnier et ce sont à d'une certaine façon une exception française dont on est très heureux. Le cinéma s'est développé beaucoup en France au départ. Il y a eu aussi l'extraordinaire aventure constituée par les actualités cinématographiques filmées, inventées, dont le principe a été inventé dès les années 1909 et 1910 par Gaumont et Pathé. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, les actualités cinématographiques. On a presque tout le siècle couvert comme ça par des cinéastes. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les grands reporters qui parcouraient le monde pour aller donc chercher des images du bout de la planète. Et tout ça a été diffusé dans nos salles de cinéma après. On s'intéresse à ça aussi dans notre ouvrage, dans notre guide. Et là, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on a on se trouve dans une situation paradoxale. Le paradoxe est souvent d'ailleurs une particularité française de ce point de vue-là, enfin de bien d'autres points de vue aussi, mais de celui-là également. C'est-à-dire à avoir à la fois été souvent parmi les pionniers, si vous voulez, pour ce qui est de s'investir dans des modes, enfin dans la transmission de l'information grâce à des nouveaux médias. Et puis d'un autre côté, après ça, de ne plus s'intéresser réellement au devenir et à la valeur de ces informations et de ces nouveaux médias. C'est quand même paradoxal.
Il y a un divorce entre... Non, mais c'est simplement pour redire exactement ce que vient de dire Hervé Lemoine. Il y a un divorce entre la production et l'exploitation et la valorisation. C'est évident, on a une production extraordinaire, neuve, très inventive et très effectivement novatrice. Et en même temps, il y a eu... sinon une chape de plomb là-dessus, on s'est dit très bien, c'est produit mais c'est mis à part, ça reste éventuellement dans un circuit commercial, un circuit économique, et ça ne rejoint pas le circuit des sciences sociales. Et c'est vrai que nous, ce que l'on a voulu faire par une mise à plat, c'était aussi bien reconnecter les univers de la production avec l'univers de la recherche.
Alors, quel regard nouveau par rapport à l'écrit les sources audiovisuelles et sonores peuvent apporter sur des réalités d'actualité, sur la culture française, mais également sur la compréhension de l'histoire? En quoi l'image et le son nous apportent un regard nouveau sur cette histoire?
On serait tenté tout de suite de citer finalement Jean-Noël Jeannet avec sa nouvelle publication, enfin la plus récente et plus importante publication dans ce domaine, L'écho du siècle. Eh bien oui, le patrimoine sonore audiovisuel, c'est l'écho du siècle. Et On ne peut pas comprendre une nouvelle fois une époque, on ne peut pas comprendre son histoire, donc l'histoire, sans son écho. Comme le disait également Agnès Calu tout à l'heure, on parlait du fait que, effectivement, la représentation de l'histoire, ou les représentations de l'histoire, étaient forcément constitutives de ce que sont les sources sonores et du visuel, mais ces représentations de l'histoire sont aussi simplement constitutives même de notre histoire. Et là, on pourrait citer de très nombreux exemples. On en cite d'ailleurs dans notre tome 1, qui est un développement et une analyse en quelque sorte à la fois épistémologique, de façon à réintégrer justement dans l'historiographie de notre temps le poids et l'intérêt de ces sources sonores et du visuel. Ce tome 1, que nous avons évidemment tous les deux entièrement rédigé aussi, vraiment est nourri de très nombreux exemples tirés des différentes effectivement notices qui sont rédigées dans le reste de l'ouvrage. Et donc à partir de tas d'exemples sur des sujets aussi divers que les mutations sociales, les conséquences de la deuxième révolution industrielle ou des mouvements sociaux, ou bien même donc évidemment l'histoire des guerres et des conflits. Donc on a tiré des tas d'exemples venant de tous ces sujets pour montrer que l'historiographie classique qui les avait jusqu'à présent un peu ignoré ou écarté, eh bien pourtant s'en trouverait certainement renouvelé, ou en tout cas augmenté, amélioré. Enfin, je ne sais pas quel est le terme qui serait le plus adéquat. Et là, ce seront à d'autres d'ailleurs de trouver les bons termes, parce qu'on ne peut pas préjuger évidemment des résultats des recherches avec un nouvel apport de sources. Mais si vous voulez, voilà, notre propos, c'est vraiment celui-là, et ce tome 1, on y tenait énormément aussi, en dehors donc de cette ambition de faire une cartographie vivante des gisements existants en France. On voulait absolument dans ce tome 1 dire, regardez, évidemment, nous sommes tous les deux des historiens de formation forcément, mais nous ne pouvons pas avoir évidemment une connaissance totale de tous les sujets qui seraient susceptibles d'être, comment dirais-je, dont l'historiographie sera forcément revisitée par l'irruption de ces nouvelles sources sonores et du visuel. Mais néanmoins, voilà, à travers quelques exemples bien concrets, eh bien, voilà comment nous, on peut dire tout de suite, eh ben, on voit très bien là que quand même, il y a des pans entiers de l'histoire ou de la connaissance de certains événements qui va se trouver enrichi ou amélioré du fait de la maintenant de l'irruption de ces nouvelles sources et du fait qu'on puisse dire, bah oui, on bénéficie de tel et tel témoignage, on bénéficie de tel et tel reportage, on bénéficie de telles et telles images qui ont été tournées à l'époque, et bien ça nous permettra de mieux comprendre quand même comment les événements ont été vécus et ressentis. Pour prendre qu'un seul exemple, quand même emblématique, nous sommes à la radio aujourd'hui, eh bien l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, on sait bien que l'exemplaire conservé et enregistré est celui du 21 juin, certes. Mais quand on travaille encore aujourd'hui dans les universités françaises sur l'appel du 18 juin, qu'est-ce que l'on fait? On distribue un polycopié aux étudiants avec la transcription de l'appel. Et en fait, généralement, on distribue d'ailleurs le texte de l'affiche, de ce qui avait été affiché après. Or, c'est pas exactement le même texte qui avait été lu et le même discours qui avait été prononcé par le général de Gaulle le 18. Il y a quelques, je crois, nuances encore entre la version du 18 et celle du 21. Eh bien, on voit très bien, c'est un exemple typique de mauvaise appréhension d'un événement qui est avant tout un événement radiophonique. D'ailleurs, le général de Gaulle n'a été connu pendant très longtemps par beaucoup de Français que par sa voix. Eh bien, on voit très bien qu'effectivement, là, il y a une mauvaise appréhension. Et en termes de méthode, on pourrait dire que c'est une faute, en termes méthodologiques aujourd'hui encore, de continuer à enseigner et à parler de l'appel du général de Gaulle du 18 juin en distribuant un document écrit.
Juste Madame peut-être, Calu. Oui, non, un tout petit mot pour ne parler que de l'histoire orale et peut-être pour se raccrocher au mot qu'a prononcé René Raymond il y a maintenant une dizaine d'années. L'histoire orale, elle permet véritablement une dilatation du territoire de l'historien. Pourquoi cette dilatation du territoire de l'historien? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le témoin se trouve véritablement au cœur du dispositif. On accepte quasiment donc de changer les méthodes historiques, c'est-à-dire que on accepte non pas d'aller du général vers le particulier, mais de partir du particulier pour aller vers le général. C'est-à-dire que l'on décide d'entendre des trajectoires, des parcours individuels, et à partir de ces parcours individuels, de proposer une version historique. Ça, je crois aussi que c'est quelque chose de tout à fait fondamental, quelque chose qui nous a mobilisés, qui est cette part de l'humain dans l'écriture historique. Et cette part de l'humain dans l'écriture historique, par définition, s'est supportée par le développement des témoignages oraux. Et peut-être un mot que nous n'avons pas prononcé et auquel moi je suis très sensible, ou nous sommes très sensibles d'ailleurs tous les deux à ce mot-là, c'est la notion de corpus. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé donc... de la notion de perles. Quelles perles avez-vous trouvées? Moi, je pense que nous avons trouvé un certain nombre de perles, mais qu'à la limite, chacune de ces perles n'a pas tant d'importance en soi qu'elles n'ont d'importance que mises les unes à côté des autres. C'est-à-dire que nous avons trouvé, pour ne prendre que cet exemple-là, il y en a bien d'autres, sur un certain nombre de métiers, un récit qui est donné par un meunier ou par un boulanger ou par un boucher. Soit cinq récits dans cinq régions différentes, proposés par la même corporation à rapprocher les uns des autres, cela veut dire un corpus, cela veut dire quelque chose, cela veut dire le témoin qui se trouve au cœur, je le répète, du dispositif historique, et par définition, cette dilatation du territoire de l'historien, puisque celui qui est au cœur même de la recherche s'exprime, doit être écouté et doit quasiment configurer même la thèse historique. C'est de là qu'on part. Je crois que ça, c'est une chose... personnellement, je n'en reviens pas, c'est assez révolutionnaire. C'est contraire quasiment à tout ce que l'on sait dans la façon de travailler. Et il faut accepter, je crois aussi, d'être bousculé. Ce guide, il est là aussi pour bousculer, pour dire ces sources-là, elles sont à mettre à côté des autres. Et elles nous obligent aussi peut-être à concevoir l'histoire un tout petit peu différemment, avec plus d'humanité, avec cette idée de la singularité, cette idée du récit de vie. Un homme, une femme qui parle... on l'écoute et cela peut éventuellement être le soubassement, le socle d'une autre façon d'écrire l'histoire.
Donc les images et les sources audiovisuelles, les sources sonores apportent un éclairage nouveau sur la perception de l'histoire, sur l'édification de l'histoire, mais elles participent également de notre imaginaire. C'est ce que souligne votre post-facier, monsieur Jacques Rigaud, ancien directeur de RTL et aujourd'hui membre honoraire du Conseil d'État. Et je me permets de le citer lorsqu'il dit « La mémoire, celle des individus comme celle des peuples, est une affaire des cinq sens. Elle ne s'attache pas seulement aux idées et aux choses tangibles faites pour durer, qu'il s'agisse du papier, de la pierre ou des objets. Les odeurs, les saveurs de notre enfance, les comptines que l'on nous chantait pour nous calmer ou nous endormir, les bruits divers qui renseignent le petit enfant sur le monde qui l'environne, tout cela, bien qu'éphémère par essence, a joué, chacun de nous le sait, un rôle dans la formation de notre sensibilité. » Il fait appel à la griffe de Chateaubriand, à la Madeleine de Proust, et en ce qui le concerne lui plus personnellement, une photographie de Doisneau qui réveille en lui tout un tas de souvenirs sur le Paris populaire. Et ce sont aussi ça les sources sonores et audiovisuelles, un regard sur l'histoire et finalement une sensibilité nouvelle sur les choses. Alors je serais tenté de vous demander, ce sera le mot de la fin puisque nous touchons à la fin de notre émission, quelle est en ce qui vous concerne votre Madeleine ou votre photographie de Doisneau, Madame Calu?
Je réfléchis un instant et pour la part d'oralité, j'aurais tendance à faire une micro-incursion, sinon dans ma vie privée un tout petit peu. Lorsque j'étais enfant, je fus malade et mon père s'installa de longues après-midi près de moi et il me lut toute la Comtesse de Ségur. Et quand je réfléchis à cela, j'ai l'impression que peut-être je suis venue à la littérature au travers de sa voix. Et c'est amusant parce que lorsque nous avons rencontré justement nos camarades de l'Institut des Archives Sonores et que j'ai entendu justement cette littérature lue, cette littérature donc qui passait sur les ondes, c'est amusant votre question, je me suis dit, eh bien je suis certainement venue à la littérature par la voix de mon père. Donc peut-être cet exemple-là qui me revient aujourd'hui.
Monsieur Lemoine.
Et bien moi, comme j'ai un âge absolument canonique par rapport à celui d'Agnès Calu, ma Madeleine de Proust est plus ancienne et presque plus contemporaine de Proust que la sienne. Et moi, très honnêtement, c'est un document évidemment du visuel. Si je me souviens, dans une nuit d'été, nous étions effectivement en bord de mer et en vacances avec mes parents qui m'ont réveillé en pleine nuit pour regarder tout simplement la retransmission en direct de la première, de l'annulissage évidemment, et du premier pas de l'homme sur la Lune. Il y avait juste avant, parce que les transmissions, enfin tout ça n'était pas très cadré en termes de temps, et juste avant il y avait un épisode, je me souviens de ça, de Chapeau Melon et Bottes de Cuir, donc j'avais regardé la fin de ce dernier épisode, un peu étonné que mes parents me réveillent en pleine nuit, il était 3h du matin je crois, pour cela, mais en fait c'était pour regarder après ce premier homme qui a marché sur la Lune. C'est vrai qu'à y réfléchir, je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué, donc je me le rappellerai toujours.
Merci, sur ces mots nous terminons notre émission. Vous écoutiez Éclairage et nous parlions aujourd'hui du guide du patrimoine sonore et audiovisuel français qui vient de paraître aux éditions Belin avec ses deux auteurs, Madame Agnès Calu et Monsieur Hervé Lemoine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.